Nous prenons le psaume 84. Le psaume 84 des fils de Corée. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, toi qui es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Notre thème, c'est « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Voilà ce que les écrivains des psaumes nous proposent. Nous venons de lire ce psaume qui dit « Que tes demeures sont aimables, comme ton habitation est aimable ». Et lorsque nous lisons, nous voyons que dans un temps, les fils de Corée parlent d'une maison physique, le temple de Dieu, là où se passait le culte. Mais lorsque nous lisons encore davantage, nous nous rendons compte que la maison de Dieu, ils ont compris, c'est la présence de Dieu, c'est la compagnie de Dieu, c'est vivre avec Dieu et marcher avec Dieu. C'est ça la maison de Dieu. Et ils disent que tes demeures sont aimables. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Donc, même à l'extérieur. Donc, si on se représentait la maison de Dieu, juste être à l'extérieur, à la porte, pour lui, c'est plus beau qu'habiter dans les tentes des méchants. Parce que dans les tentes des méchants peuvent être rempli de richesses, rempli de victuailles, rempli de nourriture. Mais il y a la méchanceté, et la méchanceté produit la mort. Il dit, je préfère être, même s'il le fallait, rien qu'à la porte de la maison de l'Éternel. Et nous allons prendre le psaume 23 qui parle de la même chose. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors quand David dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », David n'était pas un sacrificateur. Il n'avait pas droit à habiter dans le tabernacle comme les sacrificateurs. Lui, c'était un roi. Il avait un palais. Même admettons que le psaume 23 ait été écrit avant qu'il ne soit roi, il n'habitait pas toujours dans le tabernacle. Il était même éloigné de cela par Saül. Donc quand David dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, il ne parle pas du temple, il ne parle pas du tabernacle, il parle bien d'une maison qui est visible pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui sont en connexion avec Dieu. Il y a une maison, c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a une grande vérité dans la Bible, c'est la maison de l'Éternel. Si tu veux vivre heureux sur la terre, il faut que tu habites dans cette maison-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à habiter dans des maisons de rois. Il y a des gens, quand ils finissent les études, ils veulent travailler dans des hôtels, les hôtels très luxueux. Ils veulent travailler dans des endroits où l'argent coule. Dans des sociétés, il y a certaines sociétés, quand vous entrez dedans, vous êtes assuré, retraite, soins médicaux. Chaque année, augmentation de salaire. Tout le monde se presse pour entrer dans cette entreprise-là. Mais Dieu veut nous dire aujourd'hui, empresse-toi d'entrer dans sa maison. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et il est en train d'expliquer qu'est-ce que ça produit le fait d'habiter dans la maison de l'Éternel. Il me fait reposer, verset 2. Premier, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Avec Dieu, ça ne sera pas compliqué. Quand on habite dans sa maison, la vie est simple. Les eaux sont paisibles. Combien de gens sont-ils perturbés alors qu'ils se disent chrétiens? Beaucoup sont dans des perturbations, dans des raisonnements, dans des réflexions qui empestent leur vie, qui infectent leur vie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas saisi qu'il fallait habiter dans la maison de Dieu. Ils sont en train de chercher les choses que les païens cherchent pour trouver du bonheur. La meilleure entreprise, le meilleur salaire. Une grande maison, beaucoup d'enfants, ils cherchent les mêmes choses que les païens. Et en cherchant ainsi, ils n'ont plus la paix, ils ne sont plus bien. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, nous cherchions, comme David, à habiter tous les jours dans la maison de Dieu. Il y en a qui cherchent même le ministère. Vous savez, j'ai vu un prospectus, une annonce, un tract d'un séminaire dans une église. Déjà, quand vous prenez le tract, vous croyez que c'est un tract d'une institution de gymnastique. Hein. Donc, on se dit, sûrement, peut-être c'est quelque chose de on est en train d'annoncer une salle de sport. Parce que l'image, c'est des jeunes filles qui sautent, quoi, qui font des sauts. Et puis c'est écrit, c'est en anglais, to increase, pour augmenter la performance spirituelle, pour augmenter je ne sais quoi dans le mariage, pour tes finances, pour ceci ou cela. Viens recevoir dans cette conférence. Alors je dis, quelle escroquerie, bien-aimé. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et conséquence, je ne manquerai de rien. Conséquence, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Il est là à côté de moi. Conséquence, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je suis dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas aller chercher une performance dans une conférence. Comme quelqu'un, une autre conférence, j'ai un tout petit peu suivi, le prédicateur disait, après cette conférence, ta vie a changé. Ce n'est pas après que tu aies reçu Jésus, mais c'est après cette conférence-là. Quiconque a assisté à cette conférence-là, sa vie a changé. Moi, je dis, si Dieu nous voulait changer par cette conférence, il allait faire que cette salle-là prenne la place de toute la terre, bien-aimés. Le changement, c'est Jésus. Jésus dit, « I am the way, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Viens entrer par la porte dans la maison de Dieu. La porte, c'est Jésus. Et cette maison, c'est lui-même. Et cette maison peut devenir toi-même. Parce que toi, Dieu a décidé de faire de toi une maison où habiter, faire de ton entourage une maison, faire de toi une maison. Mais c'est ton choix. Qu'est-ce que tu décides? Habiter dans la maison de l'Éternel ou chercher les choses comme les païens cherchent? Il y en a même qui te diront, viens pour tes performances spirituelles. Quelle performance spirituelle? La Bible dit dans Jean 15, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Zacharie 4, 6 dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, ce n'est pas mon esprit. Et tout cela, on les retrouve dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est ce qu'il faut pour chacun de nous. Bien-aimés, nous connaissons les amis, des connaissances qui ont recherché le bonheur dans la maison des méchants, en collaborant avec ceux qu'il ne faut pas collaborer, en vendant leur âme pour un CDI. Nous connaissons des gens qui se sont appuyés sur leur mariage au lieu de rechercher la maison de l'Éternel. Et nous connaissons aussi leur fin. Nous connaissons leurs perturbations. Nous connaissons leurs inquiétudes, mais celui qui habite dans la maison de l'Éternel est en paix, bien-aimé. C'est étonnant de voir comment les gens de l'Ancien Testament avaient compris cela. David dit, je serai toujours heureux dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est quoi, bien-aimé? C'est vivre avec Dieu, de dépendre de lui. C'est ça la maison de l'Éternel. Marcher selon sa parole. Que sa parole devienne ta force, ta direction, ta nourriture. Le socle sur lequel tu te reposes. C'est ça la maison de l'Éternel. Quand je veux faire telle chose, mais qu'aurait fait Jésus à ma place? Que dit la parole? Même si ce que je veux faire selon la parole va me créer des problèmes, je préfère obéir à la parole. Ainsi, je serai heureux. Le Seigneur m'assure que si je suis dans sa maison, je ne crains aucun mal. Si je suis dans sa maison, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je préfère pratiquer la parole. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est les prières. La vie avec Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est la conduite par l'Esprit. Où l'Esprit veut que tu sois, c'est là que tu es. Ce n'est pas là où toi tu as décidé d'être, mais c'est là où l'Esprit de Dieu a décidé que tu sois. Ce que veut l'Esprit de Dieu pour toi, c'est ce que tu fais. S'il faut demander pardon à quelqu'un, s'il faut se réconcilier, mais tu obéis au Saint-Esprit, même si ça va faire de toi un homme inférieur, humainement parlant, mais la maison de l'Éternel va devenir réalité pour toi, bien-aimé. Écoutez ce que quelqu'un dit encore de cela dans le psaume 16. Psaume 16. C'est David encore. Il dit dans le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Bien-aimé, vous savez, il y a des mots qui sont devenus le mot tralala, quoi. Donc, Dieu, tu es mon refuge. Mais bien-aimé, quand tu dis Dieu, tu es mon refuge, il faut que tu réalises un endroit où tu te caches, quoi. Il ne faut pas que ça devienne un mot comme ça. Oh Seigneur! Tu es mon refuge, mais tu ne sais même pas c'est quoi un refuge. Non, bien-aimé. Un refuge, c'est un abri. C'est, quel que soit, c'est une maison, c'est une cabane où tu vas trouver la protection. Il y a une tentation qui est trop forte. Ben, le Seigneur va se transformer en maison pour toi, à l'abri de cette tentation-là. Quand tu dis « Tu es mon refuge », que tu comprennes qu'il s'agit d'un vrai refuge, ce n'est pas une phrase poétique. C'est une réalité. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu réaliseras que tu es dans une maison en sécurité. C'est clair, mais il faut en prendre conscience. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a une maison pour les enfants de Dieu. C'est sa maison à lui, Dieu. Et il veut que nous y habitions. Il dit, tu es mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Mais comment demeurer dans la maison de l'Éternel? Aimer tous les justes. Les hommes pieux, je les aime. Les justes. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, les gens qui ont Jésus, ils m'attirent. Donc quand je vois quelqu'un qui aime le Seigneur, je suis comme attiré. Il faut être attiré par les hommes justes et non être jaloux des hommes justes. Il y en a quand ils voient des hommes justes, oh, je ne le vois pas extraordinaire, oui, mais on ne t'a pas demandé de le voir extraordinaire. On te demande d'affectionner les hommes justes qui se débrouillent pour vivre la parole, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont justes parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont justes parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et David dit, les hommes pieux qui sont dans la région, je les affectionne. Je les aime. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les hommes justes, on voit Dieu. Moi, il y a des témoignages que des chrétiens me font sur leur vie. Quand je les entends, j'ai l'impression de voir Dieu, quoi. Et je regarde la personne fixement, quoi. Parce que j'ai l'impression de voir Dieu dans la personne, quoi. Quand la personne parle, je suis à l'aise. Je suis bien. Je pourrais rester des heures à entendre les vrais chrétiens parler, discuter, échanger, parce que je me sens dans la maison de Dieu. On est entre nous, bien-aimés. Ce n'est pas un bar où on va entendre des critiques. Ce n'est pas une boîte de nuit avec des pantalons compliqués, bien-aimés. Mais c'est la maison de l'Éternel. Et c'est la fraîcheur, la tranquillité. On te donne, on vous partage la nourriture. Tu penses d'abord à celui qui n'en a pas encore. Et lui aussi, il pense à toi. Vous ne savez plus à qui donner, tellement vous vous aimez. Bien-aimé, là, tu sais, c'est la vie, bien-aimé. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. La tente des méchants, il peut y avoir tout. Mais il y a des combines, des conciliabules, des choses secrètes qui se disent à gauche, à droite. Mais il y a une grosse table avec toute la nourriture, avec tout ce qu'on veut. Mais ça sent la mort. Mais la maison de Dieu, c'est là où il y a les justes. Il dit au verset 5, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures ma part. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Des délices éternelles à ta droite. La droite de Dieu, c'est la justice, la pureté. Quand on est à la droite de Dieu, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, on est à sa droite, eh bien, il y a des délices éternels. On est fort. Aucun mal ne nous atteint. Ça coule. On est en paix. On est dans le bonheur. Il dit au verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler pour des moments où on se sent fort seulement. Il y a des moments où on se sent faible. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir l'Éternel constamment sous tes yeux. Observer Dieu. Dire qu'est-ce que tu peux faire devant cette faiblesse-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis fatigué. Que dit la Bible? Par les maîtres sûrs de Dieu, nous sommes de Jésus, nous sommes guéris. Que dit la Bible? Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Que dit la Bible? Ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol de l'aigle. Ils marchent sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Quand je me retrouve dans des positions difficiles, je me pose la question, que dit la Bible? C'est ça, habiter dans la maison de l'Éternel. Je me trouve face à des questions difficiles. Je dis, mais que dit la Bible? Que dis-tu, Seigneur? C'est ça, habiter dans la maison de l'Éternel. Dépendre et vivre grâce à Dieu. À chaque problème, sans référer au Seigneur. Et non pas prendre des conclusions hâtives ou des conclusions personnelles, mais sans référer à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Prendre la Bible, chercher la parole de Dieu pour ce problème, pour cette situation. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Bien-aimé, Dieu a toutes les ressources en lui. David dit qu'il est mon souverain bien. Donc il est le bien le plus élevé que David a. C'est Dieu lui-même. Dieu te conduira, c'est vrai, à prier avec les bien-aimés, mais c'est aussi sa maison. Et tu seras dans la joie. Tu es heureux. Prier, chanter, louer Dieu, c'est tellement agréable lorsqu'on est libre. Mais lorsqu'on le fait pour avoir des promotions spirituelles, ça devient désagréable. Lorsqu'on le fait pour se dire bon chrétien, ça devient désagréable. Mais lorsqu'on comprend ces notions-là, habiter dans la maison de l'Éternel, lorsqu'on saisit ça, on apprend qu'il y a réunion de prière quelque part. Tu vas vite, parce que tu sais qu'il y a un rendez-vous avec Dieu là-bas. Ce n'est pas parce qu'on dira de toi que tu es un bon chrétien. Ce n'est pas parce que tu auras une promotion spirituelle, tu cherches un don spécial, mais tu aimes la maison de l'Éternel. Parce que tu as expérimenté ce qu'il y a dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, goûtez, sentez comment l'Éternel est bon. Goûtez. Quand tu as goûté à Dieu, tu cours, tu aimes. Nous sommes en train de lire les expériences des gens qui ont goûté à Dieu. David, les fils de Corée et d'autres encore qui disent, nous voulons la maison de Dieu. Tes demeures sont aimables. Ta présence est extraordinaire. Tu es celui qui nous donne la force, celui qui nous donne la victoire. Il y a des moments, quand on est avec lui, il suffit d'avoir une pensée dans son cœur. On reçoit rapidement la réponse. Parce qu'on est dans sa maison. Il faut bien aimer le maître, avoir Dieu constamment devant nous. Il y a des moments où nous connaîtrons des faiblesses. On l'a toujours devant nous. Il nous soutiendra. Il nous fortifiera parce qu'il est là, toujours, constamment devant nous. Psaume 16, il dit, j'ai l'Éternel constamment devant moi, constamment. Il est toujours sous mes yeux, il est toujours à côté. Même quand je semble défaillir, il est là. Il faut habiter dans la maison de Dieu, bien-aimé. Il faut habiter dans la maison de Dieu. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous dit prier sans cesse. On doit être tout le temps en communion avec Dieu. Jour et nuit, sans cesse habiter dans sa maison. Bien-aimé, quand tu habites dans la maison de Dieu, c'est là que tu vois réellement que ce qui t'attirait chez les païens, ce qui t'impressionnait chez les païens, c'est sale et pourri. Parce que toi, tu es en mieux dans la maison de l'Éternel. Peut-être eux, ils ont de grosses quantités de bidons d'eau, de tonneaux. Mais toi, tu as un robinet qui est connecté au ciel. Tu n'as peut-être pas de gros sacs de billets avec toi. Et ils en ont. Mais même les plus gros sacs de billets finissent par s'épuiser. Mais quand tu as le robinet financier qui est connecté au ciel, ça ne s'épuise jamais. Parce que Dieu est infini. Pourquoi, bien-aimé, s'attacher à des choses qui sont périssables, qui sont limitées, qui sont finies, que les hommes peuvent donner, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que, quoi que tu trouves dans ce monde comme source de bonheur, sache que c'est limité et c'est périssable, ça peut te quitter. Mais Dieu ne peut jamais te quitter. Et lui n'est pas périssable. Il est infini. Il est tout puissant. Il faut que tout ce qu'il te donne, tu acceptes ça comme ses bénédictions à lui. Non pas comme des fins en soi, mais comme ses bénédictions à lui. Quand tu t'accroches à une maison physique, tu es dans la grosse erreur. Parce que la véritable maison, c'est la maison de l'Éternel. Dieu veut nous inviter à expérimenter cela, la maison de Dieu. Vous savez, dans une maison, on trouve tout. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, nous décrit tout ce qu'il peut arriver dans une maison. Il a dit, la nourriture, il me dresse une table autour de mes ennemis. J'ai tout. Le psaume 16 dit, tes délices sont éternelles à ta droite. Donc, quand tu es en communion avec Dieu, de tout moment, en union avec Dieu, de tout moment, tu vis des délices. Tu vis des délices. On a eu veillé le vendredi en fleurs. Et puis, samedi, on a attaqué à Saint-Jacques-sur-Danétal dans l'adoration et dans la louange, bien-aimé. J'étais malade le matin du samedi. L'après-midi, malade. Mais bien-aimé, quand on a commencé à chanter, je me suis rappelé que j'étais malade qu'à la fin de l'attaque, quoi, bien. À la fin de l'adoration de la louange. C'est là que je me suis souvenu, mais tiens, j'étais malade. Mais non, bien-aimé, la présence de Dieu guérit tout ça. On était là, we are marching in the light of God. Quand vous chantez ce chant-là, bien-aimé, vous êtes sur des nuages. Qui va venir te redescendre, puisque c'est Dieu qui te tient, bien-aimé. Alors que quand on n'est pas dans la maison de Dieu, on est toujours là. Les joues gonflées pour... mais soit chez Dieu, c'est la paix, bien-aimé. On est tout le temps avec des réflexions en se grattant la tête. Non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, au nom de Jésus, là tu es bien, même en prison. On a notre sœur Esther Gulshan, quand elle a été emprisonnée par sa sœur parce qu'elle s'était convertie à Jésus, on l'a mise dans une prison, elle, une fille de riche. Non seulement riche, mais très riche. Elle avait environ 40 domestiques. Tu te retrouves en prison, là où pour aller même aux toilettes, c'est compliqué. Elle était triste. Elle était abattue, mais elle a cherché la maison de Dieu. Bien-aimé, psaume 27, David dit, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Quand ça ne va pas, tu cherches que la maison de Dieu descende là où tu es. Elle a cherché, bien-aimé, les bandits, les femmes bandits qui étaient les co-détenus, les gens qui étaient emprisonnés avec elle, qui étaient méchantes, prostituées, bandits, elles ont commencé à se convertir. La cellule de Gulshan est devenue une église. C'était la Bible, les chants, la gloire de Dieu. À tel point que lorsqu'on est venu la sortir de la prison, elle a dit, je ne veux pas sortir. Parce que la maison de l'Éternel est là. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. Ne cherche pas ailleurs, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils cherchent des choses à la manière des païens. Ils cherchent un don spirituel. Ils cherchent une délivrance. Ils cherchent un enfant. Ils cherchent un mariage. Ils cherchent la santé. Ils cherchent ce... Ils sont tout le temps en train de chercher alors qu'il suffit de chercher la maison de l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Et quand on leur donne ce discours, ils disent, le pasteur me dit parce qu'il n'a pas la puissance. Ils disent, bon, le pasteur, il me dit, parce qu'il n'a pas de solution pour moi, c'est pourquoi il me demande de chercher la maison de Dieu. S'il avait des solutions, il prierait pour que j'aie la chose. Bien-aimé, moi, je te donne le meilleur. Ce que David appelle mon souverain bien. Le bien de qui dépendent tous les autres biens, c'est Dieu lui-même. La maison de l'Éternel. Vous savez, quand on est dans la maison de l'Éternel, on est heureux quel que soit l'endroit. Quel que soit ce qu'on manque, on est heureux parce qu'on est dans sa maison. Vous imaginez la maison d'un roi. Qu'est-ce qui peut manquer dedans? Imaginez. Déjà, le chauffeur du roi dans sa maison, rien ne manque. Maintenant, le roi lui-même. Il y a un frère qui me disait, mais... Lorsque un président, le président de la France, va par exemple dans un pays, eh bien l'ambassade est refaite. On met une nouvelle peinture, on change les nappes. Tout est renouvelé, rien que pour un séjour de 4 jours du président. Alors que l'ambassade, déjà, par exemple, une ambassade de France, c'est déjà quelque chose de très propre. Hein? Mais tout est renouvelé. Hein? Peinture nouvelle. Parce que le président arrive. Donc vous vous imaginez la richesse qu'il peut y avoir chez un ambassadeur. Mais maintenant, la richesse qu'il va y avoir chez un ministre. La richesse qu'il va y avoir chez un président. Et la richesse qu'il va y avoir chez l'Éternel des armées, bien-aimés. Imaginez que vous êtes dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui vous pouvez manquer? Mais cependant, ce ne sont pas les choses de la même nature forcément que les choses physiques. D'abord, elles sont spirituelles, mais elles sont réelles. Spirituel ne veut pas dire irréel. Spirituel, ça veut dire d'une autre nature, mais quand même réel. C'est ce que ça veut dire. Les gens, quand on dit spirituel, ils se disent, bon, on ne peut pas toucher ça et ça n'a pas d'effet, c'est faux. C'est spirituel, c'est réel. C'est-à-dire, tu es dans un état, tu es en prison, tu es en conflit avec des gens qui te veulent du mal. Mais toi, tu es dans un état de paix. Donc, c'est spirituel, mais c'est réel puisque tu ne pâtis pas de la situation physique présente. Parce que la puissance spirituelle arrive à te donner la paix, une force qui fait disparaître, même si elle est là, l'action physique qui est contre toi, bien-aimé. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, très heureux. Nous avons vu notre frère qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui n'a que le buste. Et les gens le portent. Mais il est tellement heureux. Je crois que certains d'entre nous ont vu sa photo. Mais il est heureux parce qu'il vit dans la maison de l'Éternel. Il a tout. Nous, on est obligé de marcher, mais lui, on le porte, donc il fait tout facilement. Nous, il y a des choses que tu envoies un enfant ou bien quelqu'un, non, je suis fatigué. Mais lui, personne, tout le monde obéit, tout le monde lui amène. Donc, c'est devenu une star parce qu'il manque des jambes et des bras, alors que toi, tu es inconnu. Voilà. La maison de l'Éternel transforme les choses. Alors que ça semble négatif, ce qui paraît être ta faiblesse va devenir ta force. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est ça, Dieu. Parce que tu as compris c'est quoi la maison de l'Éternel. Alors qu'il y a des gens qui ont des tailles, des misses, qui galèrent pour trouver un mari. Obligés de faire des commissions. Mais toi, tu es dans la maison de l'Éternel tranquille. Il y a des jeunes filles de 17 ans, de 16 ans, qui ont de bonnes présentations, mais qui galèrent pour trouver un copain. Mais toi, tu es tranquille, avec tes robes propres, pas de mini-jupe, c'est le mari qui vient vers toi. Je veux t'épouser. Moi, oui. On a vu ça, hein? On a vu ça dans un film, hein? Yoneko. Elle a fait un accident de train. Les jambes coupées. Elle voulait se suicider. Elle était une païenne. Elle a voulu se suicider. Elle s'est lancée devant un train. Elle n'est pas morte. Mais elle s'est retrouvée avec les deux jambes enlevées. Un bras enlevé. Le seul bras qui restait avec 3 doigts. Quand elle était païenne, avec son beau corps, Elle était malheureuse. C'est pourquoi elle a voulu se suicider. Elle était malheureuse. Maintenant, avec deux jambes en moins, un bras en moins, deux doigts en moins en plus, eh bien, il y a un homme très beau qui vient lui proposer le mariage. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais oui, c'est possible avec l'Éternel. Il n'y a rien d'étonnant avec Dieu. Alors, je sais qu'un tel garçon, ailleurs, on court après lui, mais ça ne marche pas. Parce que c'est la présence de Dieu qui attire. Alléluia. Donc, bon conseil, faire attention. Il ne faut pas croire que c'est le maquillage ou les mini-jupes qui peut faire quelque chose. C'est la maison de l'Éternel. Amen. C'est ça qui peut te faire avancer. Il y a plein d'escrocs qui n'attendent que ce genre de choses-là pour s'amuser avec les filles. Ne te laisse pas polluer. Reste avec Dieu. Dans la maison de l'Éternel, nous avons tout. Nous avons tout. Comme dans une maison de roi. On a tout. Il y a des biens spirituels qui parfois restent spirituels, ou alors quand Dieu le veut, ça se transforme en matériel. Mais d'abord, c'est spirituel. Philippiens 4, 6, 7 nous l'explique. Nous allons lire. Philippiens 4, Six à sept. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà la réponse de Dieu, premièrement, au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nous dit ce passage ? Ne t'inquiète de rien. Néanmoins, tu peux toujours prier quand tu as des besoins, quand tu as des attentes. Tu peux leur faire parvenir à Dieu. Dieu te donnera d'abord un bien spirituel en réponse. Ta réponse sera d'abord spirituelle. Cette réponse spirituelle, ce sera l'accord de Dieu. Dieu te dira, ça y est, c'est bon. Marc 11, 24 nous le dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu. D'abord, tu reçois une paix de Dieu qui te dit, c'est bon, je l'ai accordé. Ensuite, tu verras cette paix se transformer en réalité. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne se transforment pas en réalité? Parce que la plupart des chrétiens ont refusé la première étape. Ils ont refusé de recevoir le bien spirituel. La réponse spirituelle de Dieu. Ils ont tellement été en attente de la réponse physique qu'ils ne l'ont jamais. Parce que la réponse physique passe par accepter la réponse spirituelle. Bien-aimé, Jésus disait aux gens, ta foi t'a guéri. D'abord, tu devrais saisir ce que tu cherches là par la foi. Si tu l'acceptes, si tu acceptes ce que je te donne comme réponse, le reste viendra. Beaucoup de chrétiens ont refusé. Ils veulent voir pour croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Mais ils imposent à Dieu de voir pour croire. Dieu dit, personne ne me changera. Adam ne m'a pas changé. Satan ne m'a pas changé. Nabuchodonosor ne m'a pas changé. Ce n'est pas toi du 20e, 21e siècle qui va me changer. Acceptons la réponse spirituelle de Dieu. Cherchons la réponse spirituelle qui va produire la réponse physique. Vous devez croire et vous le verrez. Voilà ce qui est écrit. Vous devez recevoir la maison de Dieu et vous verrez les autres choses. Dieu veut que tu utilises ta faiblesse pour un rôle spirituel, ce qui va produire une délivrance par rapport à la même faiblesse. Mais toi, tu dis, moi, avant de servir Dieu, j'attends d'abord qu'il me guérisse de ma faiblesse. Avant de faire telle chose, j'attends d'abord qu'il me fasse ceci. Avant, j'attends d'abord. Mais bien-aimé, tu vas attendre jusqu'à quand? Il y a des gens qui disent, avant d'avoir des enfants, il faut qu'on ait un 5. Dieu dit, bon, d'accord. Puisque vous avez décidé que pour avoir des enfants, il faut deux CDI, F5, une 4-4. Dieu dit, d'accord, poursuivez vos 4-4, vos F5, vos CDI, Et quand vous avez tout ça, vous cherchez l'enfant, il n'est plus là. Parce que vous n'avez pas respecté les procédures. D'abord Dieu. Recevoir la réponse spirituelle de Dieu. Tu as décidé avec qui qu'il ne fallait pas avoir d'enfant. Qui te l'a dit? Toi-même, tu as décidé. Il faut t'en repentir. Il faut se connecter avec Dieu. Il faut être en accord avec le Seigneur. Il faut prier et que ta prière soit en accord avec le Seigneur. Et le reste suivra, bien-aimé. Avant de faire telle chose, j'attends. Dieu dit, ben d'accord. Tu ne comprends pas que ta situation de faiblesse est une gloire pour Dieu, bien-aimé. La maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et je dis bien, c'est comme une maison. Je vais vous donner un autre exemple. On n'a pas le temps de lire, mais vous connaissez l'histoire. Dans la Bible, il est question des amis de Daniel. Ils étaient trois. On les a obligés à se prosterner devant une statue. Ils ont refusé. La sanction, c'était quoi? Brûler dans une fournaise ardente, terriblement chaude. Et on a pris les trois amis de Daniel. On les a plongés dans la fournaise. Les gens qui les envoyaient dans la fournaise ont été eux-mêmes brûlés et sont morts. Parce que la chaleur est sortie de la fournaise pour toucher même jusqu'à l'extérieur. Tellement puisque le roi avait ordonné qu'on la chauffe 7 fois plus fortement. Mais la Bible dit quoi? Le roi qui observait l'intérieur de la fournaise voit qu'il n'y avait plus 3 personnes seulement, mais il y avait une 4e personne. Et ils étaient tranquilles. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a jeté 3, mais il y a 4. Le 4e homme ressemble à un fils de Dieu. Il dit, sortez-les. Ces gens-là ont le véritable Dieu. On les a sortis. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit que ils n'ont même pas été brûlés, même un tout petit peu, mais ce qui est plus grave, ils n'avaient même pas l'odeur du feu ni de la fumée. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient dans une maison, ils étaient protégés. Ils étaient là physiquement, mais dans une maison encore. Dans quelque chose qui était à l'abri de ce feu-là. À tel point qu'ils n'avaient même pas l'odeur. C'est ce que Dieu te propose. De mettre dans sa maison. Sors de ta force, de tes raisonnements et entre dans la maison de Dieu. Sors de ton honneur, de ta fierté, entre dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'homme fort ni de femme forte sur cette terre. Tous ont été battus un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Sors de tout cela. Il n'y a pas de riches. Tous, ils ont mendié un jour ou l'autre. Sors de cela. On peut dire la France est riche, mais nous voyons comment elle va mendier pour vendre des choses au Brésil. Il n'y a pas de riches. Tout le monde mendie. Il n'y a que Dieu qui ne mendie pas. C'est le véritable riche. Sors de ta force pour entrer dans la maison de l'Éternel. C'est la proposition de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 8. L'avertissement du Seigneur. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais voilà ce qui est intéressant encore. Verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un enfant, un homme châtie son enfant. Amen. Alors, ce passage nous explique pourquoi nous souffrons parfois, pourquoi nous manquons des choses. Je relis le passage. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dans quel but tu as été dans le désert où tu l'es afin de t'humilier. Le grand problème de l'homme, c'est l'orgueil. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne crois pas que le problème de l'homme, c'est l'argent, l'impudicité, ou les biens matériels ou autre chose. Le vrai problème de l'homme, c'est l'orgueil. L'homme a quelque chose en lui qui le pousse à être rival de Dieu. C'est le plus grand problème. Et Dieu va vouloir nous humilier parce que si on ne s'humilie pas, on est mort, on est perdu. Alors, il nous amène dans le désert. Il dit, afin de t'humilier, autre raison est de t'éprouver. Voir quelle est ta vraie position. Parfois, tu as dit oui à Dieu juste par ambiance, juste parce que ça faisait bien à l'époque de dire oui à Dieu, comme ce fut du temps de Constantin l'Empereur. L'Empereur est devenu chrétien. Donc ça faisait bien que tout le monde devienne chrétien, parce que quand tu devenais chrétien, l'Empereur te faisait des faveurs. Alors Dieu t'amène dans le désert pour voir tes vrais sentiments. Est-ce que tu cherches Dieu pour le mariage? Est-ce que tu cherches Dieu pour avoir un enfant? Est-ce que tu cherches Dieu pour avoir une richesse? Est-ce que tu cherches Dieu pour garder tes enfants purs et sages? Pourquoi tu cherches Dieu? Dieu t'éprouvera pour le savoir. Est-ce que c'est la vraie relation, la vraie communion que tu cherches? Voilà la deuxième raison. Pour savoir donc quelles étaient les dispositions de ton cœur si tu garderais ou non ces commandements. Voilà pourquoi nous traversons des difficultés, nous avons des incapacités, nous avons des insuffisances. C'est pour nous humilier, parce que le grand problème de l'homme, c'est l'orgueil. L'homme a quelque chose en lui qui lui fait croire qu'il est lui-même Dieu. Même s'il ne dit pas que je suis Dieu, mais il se comporte comme Dieu. Déjà, il dit « c'est ma vie ». Il dit « je ». Ce « je-là » est la preuve qu'il se comporte comme Dieu. L'homme n'a pas le droit de dire « je » parce qu'il s'est retrouvé sur la terre. Il ne s'est pas créé lui-même. Il n'a pas le droit de dire « je ». Il doit dire « Seigneur, qu'est-ce que tu attends ? Que veux-tu que je fasse ?» Mais quand un homme commence à dire « je », il se comporte comme un Dieu lui-même. Et Dieu dit « Je vais t'amener dans le désert afin de t'humilier, afin d'éprouver tes sentiments. Quelles sont tes positions ? Est-ce qu'elles sont vraiment véritables ? Bien-aimé, mais verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Mais c'était dans quel but? Troisièmement, te faire entrer dans le spirituel. Parce que qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas physique. Ceux qui ont un certain âge, vous vous souvenez quand même dans vos mémoires, vous avez connu des riches aujourd'hui qui sont pauvres. Vous avez connu des gens costauds aujourd'hui qui ont des béquilles. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'immeuble dans lequel je suis. Quand je suis entré dans cet immeuble, il y avait des hommes d'un certain âge, mais bien portants, qui marchaient, qui étaient bien. Aujourd'hui, ils utilisent un déambulateur. Aujourd'hui, il y en a qui mettent des couches. Mais ils ne sont pas très vieux. Il y a 7 ans à peine, ils étaient très bien. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y en a qui mettent des couches. Donc, quand on a un certain âge, on peut avoir le recul pour comprendre que ce qui peut être une réalité aujourd'hui ne va pas l'être forcément dans l'avenir. On a connu des gens hyper riches. On a connu des enfants, des présidents qui changeaient de voiture en fonction de leur sortie. Vous savez, il y en a qui suivent la mode vestimentaire, il y a des gens qui suivaient la mode des voitures. Une voiture sort, il achète. Mais après, il quitte le pouvoir et il se retrouve à mendier. Bien-aimé, on a connu des gens qui s'habillaient de la même couleur que la voiture. Ah, dans les pays dictatoriaux, donc il y en a. Où on vole tranquillement, quoi. Sans état d'âme. Mais la crise dans le pays, il se retrouve à mendier. Si on a un certain âge, on a vu des choses. On a vu des acteurs qui étaient au sommet. Kevin Costner, aujourd'hui, j'ai connu qu'il y a quelques années, il a été élu le plus mauvais acteur. Donc celui qui était élu 10 ans avant le meilleur, 10 ans après, on fait un concours des mauvais, il est le premier. Bien-aimé, si tu as un certain âge, tu as vu tout ça. C'est pour t'apprendre que ce qui est réel pour l'homme ne l'est pas vraiment. C'est ce qui est de Dieu qui est réel. Alors Dieu va te faire souffrir, va t'amener dans les difficultés, dans quel but, pour te pousser à reconnaître la faiblesse des choses physiques et te pousser à t'attacher à ce qui est spirituel. C'est ce qu'il a dit, je t'ai fait souffrir de la faim. Le but, c'était que tu arrêtes de compter sur les vaches, de compter sur la pluie, de compter sur les plantations, mais tu commences à compter sur moi, Dieu, pour te donner la manne. Il a dit, je t'ai fait souffrir de faim, mais je t'ai donné la manne. Et il t'a nourri de la manne, verset 3, que tu ne connaissais pas. Dans le but d'apprendre à vivre de Dieu. C'est ça. Dans quel but? Afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu veut te donner le meilleur, une puissance céleste, une autorité céleste qui attire les choses. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'on te donne 1 million d'euros pour le restant de tes jours, ou qu'on te nomme ministre pour tout le restant de tes jours? L'homme intelligent va dire quoi? On me nomme ministre pour tout le restant de mes jours. Parce que je sais qu'étant ministre, tout le restant de mes jours, j'ai un salaire qui tombera chaque mois. J'ai une autorité. Je vais diriger. Je vais décider. Je n'aurai plus besoin de visa pour aller dans un pays. Je ne passerai plus par le même chemin des aéroports. Mais aujourd'hui, dans les aéroports, aujourd'hui, si on me donne 1 million, quand j'arrive dans un aéroport, ce n'est pas écrit 1 million ici. On va me faire attendre comme tout le monde. Mais quand je suis ministre, la valise passe par une autre voie. On dit, il y a un ministre qui vient, un protocole accueil. Dieu te propose d'être ministre, toi tu veux avoir 1 million. Dieu dit, mais non, le million va partir parce que beaucoup en ont eu et c'est parti. Mais si tu es ministre jusqu'à la fin de tes jours, tu es assuré. Dieu veut le spirituel c'est l'autorité. L'autorité attire la gloire, attire le matériel, mais le matériel n'attirera pas forcément l'autorité. Nous, on veut courir après le matériel. On veut courir après un don spirituel. On veut courir après un système d'église. On veut courir. On ne veut pas recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. On ne veut pas la communion de lui, avec lui, habiter dans sa maison. Bien-aimés, les gens qui ont écrit ça, c'est David. David a écrit tous ces psaumes-là, mais c'est quelqu'un qui était fort physiquement. C'est quelqu'un qui avait une force mentale, humaine, forte. Mais c'est quelqu'un qui a compris que tout ça, c'est zéro. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Avec ta force mentale, tu es entouré de 3000 personnes. Qu'est-ce que va faire ta force mentale? Devant 3 gros chiens, ta force mentale va faire quoi? Ou bien 2 lions? Tu vas faire même le geste, s'asseoir comme les gens qui font le yoga, ben ils vont te manger tranquillement, bien-aimé. Mais si tu es avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Daniel dans la fosse aux lions. On avait arrêté un chrétien en URSS à l'époque où les chrétiens étaient persécutés. Le soldat russe a pris du poison. Il a fait goûter un tout petit peu un gros chien berger. Il est mort d'un coup foudroyé. Il a dit aux chrétiens, si votre Dieu est réel, bois ça. Les chrétiens ont bu tout le flacon. Après 5 minutes, il était toujours en train de regarder le soldat bien-aimé. Le soldat s'est agenouillé, il a dit, moi aussi je vais devenir chrétien. Alléluia, bien-aimé. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Choisis cela, bien-aimé. Ne cherche pas des éléments physiques qui vont te réjouir. Une voiture, une maison, toutes ces choses-là peuvent te trahir. Cherche Dieu. Habite dans la maison de Dieu et Dieu te donnera tout le reste. Il dit, ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Vous cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Bien-aimé, au lieu de passer du temps pour éduquer les enfants, allez, c'est 100% de travail pour t'enrichir. Bien-aimé, ce travail-là peut te trahir un jour. Mais l'éducation biblique que tu donnes aux enfants sera une récompense plus tard. Bien-aimé, réveillons-nous. Nous continuons verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Pendant que nous sommes dans les difficultés, pendant que nous connaissons le désert, nous connaissons une marche à pas forcer, nous nous disons, si on n'est pas spirituel, si on n'est pas dans la maison de Dieu, ah, c'est la galère. Mais un vrai qui a saisi Dieu, pendant qu'il marche à pas forcés, pendant qu'il souffre, il ne ressent même pas qu'il souffre. Il y aura seulement des gens pour te dire, mais tu souffres. Oh, mais toi, tu ne voyais pas que tu souffrais. Il y aura des gens qui te diront, ah, mais c'est triste ta situation. Mais toi, tu leur dis, mais non, ça va, moi, je suis bien. Les gens te diront que tu souffres alors que toi, tu ne souffres pas. Bien-aimé, je m'en suis rendu compte. Quand tu es avec Dieu, pendant que tu passes des moments difficiles, tu ne t'en rends pas compte que c'est des moments difficiles. Parfois, ce n'est qu'après avoir sorti de ces, après être sorti de ces moments-là que tu te rends compte que j'étais dans les difficultés. Mais si tu es spirituel, quand tu es dans les moments difficiles, le Seigneur te soutient, il te fortifie et tu es bien. Tu n'es pas dans la joie totale, c'est vrai. Il peut y avoir parfois des pleurs, des difficultés, mais dans l'ensemble, tu y es bien. Ce qui fait que le jour où tu es béni maintenant, tu sors de ce problème-là, tu n'es pas mieux. Tu es toujours bien. Parce que Dieu était avec toi avant et il est avec toi après. Et puisque c'est Dieu qui était le centre de ton bonheur. Vous pensez que Daniel était mieux à l'extérieur de la fosse aux lions que dans la fosse aux lions? Ben non. Dans la fosse au lion, il était bien. Aucun lion ne pouvait l'attaquer. La gloire de Dieu était là. Maintenant, il sort, il est délivré. C'est la même gloire qui est là. La différence, c'est qu'il est libre, c'est vrai. Les lions ne sont plus autour. Ça satisfait la chair, mais le plaisir, le bonheur reste le même, puisque Dieu est toujours là. C'est Dieu qui faisait son bonheur. Il a dit, mon problème, c'est que tu apprennes. C'est ça le problème de Dieu, que tu apprennes à vivre du ciel, avoir un bonheur qui vient d'en haut, de sorte que personne ne puisse te le voler. Si tu as des bonheurs qui sont liés à la terre, les gens peuvent te voler ça. Les gens peuvent te déstabiliser. Mais si ton bonheur vient du ciel, personne ne peut voler cela. C'est surnaturel. C'est soutenu par l'Éternel lui-même, bien-aimé. Réveillons-nous. Entrons dans la maison de Dieu. Tu vas te rendre compte que ton vêtement finalement ne s'est point usé. Ton pied ne s'est point enflé. Tu te dis, oh, mais moi je n'ai jamais ressenti que je souffrais. Aujourd'hui, je sais que je voulais, mais je ne suis pas mieux qu'avant. Je suis toujours pareil. Je me sens autant bien maintenant que... Parce qu'il y a des gens toujours pour te dire, oh, Dieu t'a béni, mais toi, tu ne ressens pas ça comme eux. Parce que tu étais déjà bien quand tu étais dans la souffrance, humainement parlant. Tu étais déjà à l'aise quand tu galérais. Et quand maintenant Dieu vient donner, tu es toujours bien. Parce que c'est Dieu qui est ton bonheur. Et c'est ce que Dieu voulait que les enfants d'Israël comprennent. Et quand nous lisons la suite, pour clôturer, il leur dit, maintenant c'est fini la galère physique. C'est fini la marche dans le désert. Vous allez entrer dans la terre promise. Mais ne m'oubliez pas. Là-bas, tout va couler. L'exaucement va se faire maintenant. Mais attention, apprenez les leçons du désert. C'est ça le cheminement de Dieu. Peut-être que tu es arrivé à la fin de tes souffrances. Peut-être que cette prédication signe une nouvelle étape pour toi. Mais n'oublie pas celui qui t'a soutenu dans le désert. N'oublie pas les leçons du désert. Parce que tu vas être fort maintenant, humainement parlant, tu risques d'oublier Dieu. Dieu te prévient. À la fin de Deutéronome 8, c'est écrit, mais quand tu feras ça, tu vas mourir. Quand ta bénédiction va venir et que tu vas oublier Dieu, tu vas mourir. Pense au temps où il t'a formé et reste fidèle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, c'est le moment d'entrer dans la maison de Dieu. Quoi que soient tes attentes, Dieu n'est pas contre qu'on aime, qu'on veuille se marier. Il n'est pas contre qu'on veuille des enfants. Il n'est pas contre qu'on veuille une maison. Mais il te donne seulement la procédure. Il te dit, cherche d'abord à habiter dans sa maison à lui. Et le reste viendra. C'est tout. Il te donne le meilleur. Il dit, au lieu de te donner une Mercedes, alors que tu habites un bidonville, un quartier mal famé, on va te rayer ça à tout moment. Je vais te nommer dans un poste élevé et tu auras une habitation dans un bon endroit. Et en ce moment-là, tu auras la voiture que tu veux. Mais tu dois passer par la formation qui va t'amener à ce poste-là. Accepte cette formation-là. Et le jour où tu as le poste, le jour où la bénédiction matérielle est là, souviens-toi de l'Éternel. L'apôtre Paul a dit à son petit Timothée, il a dit, Timothée, n'oublie pas Jésus-Christ ressuscité. Paul connaissait le ministère. Il savait que dans le ministère, il y a des moments où il y a des bénédictions qui vont couler. Tu ne vas même pas savoir comment les arrêter. Parfois, tu auras envie de les arrêter tellement il y en a beaucoup. Paul dit à son petit Timothée, il a dit, n'oublie pas Jésus ressuscité. C'est lui qui a l'origine de tout ça. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a souffert pour que tu sois comme tu es. Il t'a formé. Maintenant, il y aura des moments de bénédiction. Ne deviens pas maître de toi-même. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le puissant de Jacob, l'arme de Dieu, la force des chrétiens, la gloire des élus. C'est lui qui travaille en nous tous, qui peut nous faire connaître le désert, mais tout en nous maintenant dans la victoire. On est bien, à tel point qu'on ne se sent pas mal comme les autres penseraient qu'on se sente. Et un jour, le désert finit. Restons humbles. Beaucoup se sont détournés du Seigneur. Quand ils n'avaient rien, ils venaient, pasteur, prions. Il y a un tel problème, il y a telle chose. Ils étaient humbles. On leur donnait des conseils bibliques. Ils écoutaient avec respect. Après vient un bon travail, de belles voitures, de belles maisons. Ben, on devient chef. Dieu dit, tu as oublié d'où tu es venu. Reviens à l'humilité, bien-aimé. Retourne dans la maison de ton Dieu. La maison de ton Dieu, ce n'est pas cet endroit. Ça peut l'être quand Dieu le décide, que ce soit cet endroit. Mais la maison de Dieu, c'est la communion toujours avec lui, la dépendance de lui. Et bien sûr, la communion avec les frères aussi. L'obéissance à la parole. La conduite par le Saint-Esprit. Et ainsi, tu auras la vraie autorité. Et garde cette logique-là d'humilité des maisons de l'Éternel. Peu importe l'endroit où il va t'amener, que ce soit dans la maison d'un roi, que ce soit dans un paradis terrestre, toi, cherche toujours la maison de Dieu. Ne t'accroche pas aux choses de la terre. C'est là l'héritage qui nous est échu, comme a dit le psalmiste. La maison de l'Éternel, c'est notre héritage. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, on a tellement souffert sur la terre, dans les écoles. Parfois, il y a des gens qui nous tapaient. Il y avait des professeurs qui nous faisaient de l'injustice. On a eu des membres de famille mauvais, des belles-mères parfois difficiles. On a souffert de plusieurs maux sur la terre. Un jour, on se convertit. Dieu nous met dans sa maison pour se reposer. Et nous, on veut en sortir pour rechercher les choses qui nous ont fait souffrir. Quelle tristesse, quel malheur. Moi, ça fait mal de voir des chrétiens en conflit, boudés à tout moment. Je dis, mais Dieu t'a amené dans sa maison pour que tu sois au repos. Il t'a converti pour que tu sois au repos. Mais toi, tu sors encore du repos. Pourquoi? Pourquoi ne pas exposer à Dieu les problèmes? Pourquoi ne l'avoir pas constamment sous tes yeux? Dès qu'il y a quelque chose transféré à lui. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Revenons à la maison de Dieu. Tes demeures sont aimables, ô Éternel. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons tes demeures. Parce que Michael Jackson, il avait toutes sortes de vêtements, de couturiers, de haut niveau. Mais il n'avait pas le bonheur, il s'est suicidé, Seigneur. Tant de vedettes, tant de présidents avaient tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'avaient pas la maison de l'Éternel. Ils sont morts dans la tristesse, Seigneur. Nous voulons ta maison, ô Seigneur. Nous refusons la tente des méchants, où on peut avoir le succès, où on peut être applaudi, mais c'est la mort qui est semée. Merci Seigneur. Tendre Père, nous voulons nous abandonner à toi Seigneur. Tendre Père, je m'abandonne à toi. M'abandonne à toi. Tendre Père, je m'abandonne à toi.
Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Tendre Père, mon Dieu.
Tendre Père, je m'abandonne à toi.
Oh, je m'abandonne à toi.
Tendre Père, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Oh Jésus, mon Dieu.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi.
Je m'abandonne à toi.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Oh Jésus, mon Dieu.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi.
Oh, je m'abandonne à toi.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Ô Seigneur, nous savons que notre force, les biens de ce monde peuvent nous donner l'impression d'être des forces, d'être des armes, mais cela n'est qu'illusion. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous disons, comme tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous disons, comme c'est écrit, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh Seigneur, merci d'agir et de nous aider à être simples, comme des enfants, comme des bébés, Seigneur. Que nous nous laissions porter par toi, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons vraiment l'argile et que toi, tu sois le potier. Merci de changer nos cœurs, ô Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pourtant, tu nous as donné, à nous les humains, de l'intelligence. Nous pouvons faire des mises en relation, des choses qui se sont passées autrefois. Mais nous ne tirons pas les leçons. Nous voyons bien qu'il y a eu des riches qui n'en sont plus. Nous voyons bien qu'il y a eu des hommes forts qui n'en sont plus. Nous voyons bien qu'il y a des hommes qui étaient dans le succès qui n'en ont plus. Mais nous voulons continuer toujours à marcher selon les mêmes logiques. Même en étant chrétien, nous cherchons la force des hommes. Nous ne voulons pas dépendre de toi. Oh Seigneur, change nos cœurs afin que nous apprenions une fois pour toutes la leçon de Deutéronome 8, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi, ô Éternel.
Que je sois comme toi.
Change mon cœur.
Change mon cœur, Seigneur. Je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi face.
Affectionner les choses d'en haut, Seigneur. La paix, la joie, la sainteté, l'adoration, la louange. Alléluia.
Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi.
Oh Papa, remplis-nous de l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Parce que tout est accompli. Nous n'avons plus rien à chercher. Tout a été fait pour nous.
tout est pour nous. C'est pourquoi Paul disait qu'il était pauvre peut-être, mais il enrichissait plusieurs. Il manquait, mais en réalité, il avait tout, parce que tout appartient. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Remplis-nous de l'esprit de reconnaissance, d'adoration et de louange. Au siècle des siècles. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Là où il y a deux ou trois, Seigneur, qui sont là, à cause de toi, que ta vie jaillisse en abondance.